Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud, 92.2, bonjour tout le monde. Quand Histoire va revenir un petit peu sur une histoire récente que je vais vous faire remonter pour débuter jusqu'en 1961. Et puis on fera un bond en avant pour voir qui a écrit ces pages d'histoire. Les années 80 ont commencé à parler du 17 octobre 61. Et en 1983, Didier Denex a fait paraître chez Gallimard « Meurtre pour mémoire ». Alors, c'est présenté par la suite sous forme de BD. Superbe BD dessinée par Jeanne Pouchol, éditée chez Futuropolis et par la suite en livre de poche. Et sur la quatrième de couverture, on lit ceci. En 1983, Didier Denex publie « Meurtre pour mémoire », première enquête de l'inspecteur Cadin, qui retrace la manifestation des Algériens en octobre 1961 et la répression policière qui fit une centaine de morts. Et je crois que je vous avais déjà dit il y a quelque temps que la centaine de morts qui est admise maintenant, c'est un mauvais compte, COMPTE, puisque les avocats des familles des victimes en ont dénombré plus de 300. Ça ne m'empêche pas de vous recommander « Meurtre pour mémoire » en poche ou chez Futuropolis si vous avez un sou en trop. Après cette espèce de roman policier, parce que Didier Deneix est les choses les plus dures, les plus terribles, il sait les faire passer, il sait les présenter de façon à ce qu'on les sache et qu'on s'en souvienne. Alors on va passer de Meurtre pour mémoire à Zapping. Zapping, c'est quasiment contemporain. Ce sont des portraits de gens qui ont été soumis, je dirais, aux médias, soumis en particulier à la télévision. Alors voilà, Zapping, dont j'extrais le rodéo d'or. Sur la tribune, dressée au milieu de la cité, le maire d'Épinay-la-Jolie et le représentant du préfet encadraient King Jasper, le jeune sculpteur venu tout spécialement du Bronx pour travailler à la phase finale de la réhabilitation du quartier des poètes. Les costumes sombres des officiels mettaient en valeur son uniforme d'artiste urbain, basket montante, jean troué, blouson tagué rehaussé d'étoiles argentées, écharpe palestinienne, casquette rouge à longue visière aux armes des Lakers. Les 200 personnes rassemblées sur la place Jean de la Fontaine, ex-place Tristan Tzara, piétinaient au rythme de « Out Forever » des Public Enemy, que la sono municipale diffusait en sourdine. Une petite équipe de TV5 filmait la scène. La grande majorité des habitants avaient préféré assister depuis les fenêtres et les balcons des tours et des bars à l'inauguration de l'environnement sculptural lumineux, comme l'écrivait dans sa brochure mensuelle l'adjoint à la culture, réalisé par King Jasper. L'éclairage public du quartier s'éteignait à 10h. 10 heures précises, et la bande originale planante du Grand Bleu remplaça les diatribes des New-Yorkais. Le cercle hésitant d'un projecteur vint chercher le visage du maire avant de s'élargir pour mettre en valeur les trois vedettes de la soirée. Le premier magistrat d'Épinay-la-Jolie s'avança près du micro et prononça un discours convenu, émaillé de tous les mots réflexes. Défavorisé, exclusion, intégration, volonté, vie meilleure, ensemble. Il passa la parole à l'envoyé du préfet sur les applaudissements mornés de la clique municipale. Trois formules pour rendre hommage au ministère de la ville. Puis King Jasper profita que ses mâchoires étaient occupées à mastiquer un chewing-gum pour saluer l'assistance et lancer vers elle trois phrases que personne ne se soucia de traduire. Le technicien coupa l'alimentation du projecteur, plongeant la cité des poètes dans l'obscurité totale. Soudain, la très intense lumière bleutée d'un laser prit naissance au milieu de chacune des petites pelouses plantées au pied de chacun des bâtiments. Les faisceaux, légèrement épanouis, venaient frapper les sculptures de tôle d'un mètre de hauteur disposées par King Jasper à distance respectable des pignons aveugles que les peintres avaient recouverts de peinture blanche. Le laser projetait l'ombre démultipliée des silhouettes sur ces écrans gigantesques. King Kong grimpait au flanc de la tour Joaquin du Bellay, ex-tour et Éluard, tandis que Superman semblait soulever la barre Paul Déroulède, ex-barre Jean Ristad, et que Zorro griffait la façade du centre d'animation culturelle Alphonse de Lamartine, ex-CAC Aragon. Le groupe de rap de l'école de maçonnerie industrielle, salopette orange, pompe de sécurité, casque de chantier, prit possession de la scène et installa en moins d'un quart d'heure les instruments marqués d'un logo scintillant composé des trois initiales mêlées de son nom. BTP. Les médias, les officiels, traduisaient « bâtiments, travaux publics ». La meute qui suivait le groupe de concert en concert se chargeait d'écrire le sous-titre « Baisse ton père ». Les trois reporters de TV5 rangèrent leur matériel et filèrent sur Paris par l'autoroute A86. Le road manager des BTP venait juste de fermer la porte derrière du camion. Il s'apprêtait à quitter la cité des poètes quand la première BMW noire, tout phare éteint, traversa la place Jean de la Fontaine à pleine vitesse, avant de partir en dérapage devant l'entrée du marché Victor Hugo, ex-halle Francis Combes. Le second véhicule évita de justesse la sculpture représentant Madonna, dont la silhouette trembla au fronton de la résidence Paul Bourget, ex-centre social Elsa Triolet. La petite cinquantaine de jeunes qui ne se résolvaient pas à quitter le lieu de l'inauguration s'était prudemment rangée derrière les arceaux de sécurité plantés sur les trottoirs. Les conducteurs, le visage dissimulé derrière d'horribles masques en caoutchouc, placèrent les voitures côte à côte et firent rugir les moteurs. Des lumières se rallumèrent dans les étages. Les roues avant patinèrent sur l'asphalte, tandis que la fumée auréolait les pneus arrière. Il ne leur fallut qu'une poignée de secondes pour atteindre la courbe menant au groupe scolaire Alfred de Vigny, ex-école Jacques Prévert, et virer devant la supérette Félix Potin, ex-boutique Comptoir Français. Les pare-chocs frottèrent l'un contre l'autre, le contact des carrosseries déséquilibra la BMW qui se trouvait sur la droite, l'obligeant à grimper sur le trottoir. Le capot emporta deux barrières de protection dont l'une fit éclater le pare-brise. Le conducteur, contraint à l'abandon, quitta son siège. Son masque évoquait l'un des monstres d'une production Spielberg, « Les vers nous gouvernent ». Il fit le tour de la BMW, ouvrit le bouchon du réservoir, alluma un mouchoir à l'aide de son zippo et enfourna le tissu enflammé dans l'essence. Il s'éloigna posément du véhicule qui explosa moins d'une minute plus tard. Les lueurs de l'incendie effacèrent le musée d'ombre de King Jasper. Cette nuit-là, 0h30. Le journaliste de permanence de TV5 avait fini par se lasser du jeu vidéo Dragon Sexe que Thierry Baudel, envoyé spécial de la chaîne en Thaïlande, lui avait fait parvenir par la valise diplomatique d'un conseiller culturel de l'ambassade, auquel il rendait de menus services. Il rêvassait sur l'enculage du virtuel quand le téléphone le tira de son demi-sommeil. « Oui, ici Jean-Luc Godillard, numéro vert de TV5, je vous écoute. »« C'est bien là où on gagne 500 francs si on donne une information exclusive ?» Le type téléphonait vraisemblablement d'une cabine car on distinguait des bruits de circulation, des sifflements du vent. Oui, vous êtes bien au 05 05 55 55. Pour décrocher la prime, il faut non seulement que ce soit exclusif, mais en plus que ce soit intéressant. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Le correspondant se racla la gorge et baissa la voix comme s'il avait peur d'être surpris. Voilà. Il y a eu un rodéo dans la cité où j'habite et les gars ont fait brûler deux voitures de sport. Jean-Luc Godillard prit une fiche et nota l'heure d'appel. Ok, ça s'est passé où et quand ? Les bagnoles brûlent encore. Ils ont commencé leur cirque juste après l'inauguration des sculptures au laser de l'Américain, cité des poètes, à Épinay-la-Jolie. Mais on avait une équipe sur place. Le sujet est prévu pour le journal de demain midi. Vous ne les avez pas vus ? Si, bien sûr. Le problème, c'est qu'ils sont partis juste avant le concert des BTP et que ça n'a dégénéré qu'après. Le journaliste prit le nom et l'adresse de son correspondant, lui assurant qu'il avait gagné les 500 francs et qu'il recevrait son chèque au cours de la semaine suivante. Il raccrocha et pianota le numéro de la salle de montage. « Allô, Yvan ?» Jean-Luc à l'appareil. « Dis, c'est bien toi qui étais à Épinay ?» Oui, pourquoi ? Il joua avec la fiche, la faisant glisser sur son bureau. Qu'est-ce que tu as ramené de renversant à part le discours du maire ? Pas grand-chose. Loïc m'a chiadé un paquet de cadrages sur leurs ombres chinoises géantes. On va surtout garder ces images pour demain. Tu veux venir voir ? J'ai pas le temps. Laisse tomber le sujet sur l'inauguration. Je viens de recevoir un appel vert en provenance de la cité des poètes. Les voitures crament dans tous les sens. On aurait l'air fin si ces radios ciblent le rodéo et que TV5, la chaîne de l'info, celle qu'il vous faut, se contente d'une minute trente en rubrique culture. T'as encore du monde avec toi ? Non, ils sont tous rentrés. C'est sérieux ton truc ? Plutôt, prends une caméra équipée d'un Projo, deux cassettes et tout ce que tu trouves comme batterie chargée. On y retourne. Ce vendredi, 2h15. Jean-Luc Godillard et Yvan Chaubral arrivèrent aux abords du groupe scolaire Alfred de Vigny, juste à temps pour enregistrer le départ des voitures de pompiers. Ils interviewèrent le commissaire de police d'Épinay-la-Jolie sur fond de carcasses noircies, dégoulinantes d'eau et de mousse. « Nous avons affaire à des bandes de casseurs professionnels, dont les membres, pour l'essentiel, n'ont rien à voir avec les habitants de cette cité. Au tout début des travaux de réhabilitation, il y a 2 ans, nous avons créé une équipe de foot mixte, policiers jeunes. Grâce à ces contacts, nous connaissons de manière permanente la température du quartier. » Le journaliste tira sur le fil de son micro relié à la caméra qu'Yvan portait sur l'épaule pour placer la vitrine brisée du Félix Potin dans le cadrage. « Vous pensez que les incidents sont terminés ou qu'il est possible qu'ils reprennent dans la nuit ?»« Mes hommes viennent de patrouiller dans la cité, Ils ont constaté que les éléments extérieurs qui ont profité de la venue de ce groupe de rap et qui lui sont certainement liés, l'enquête le dira, ont quitté les lieux. Je crois que tout le monde va pouvoir aller se coucher et dormir tranquille. Les deux reporters montèrent à l'avant de leur Nevada de service. Yvan ouvrit sa fenêtre pour effectuer un long travelling jusqu'à la frontière de la cité. Jean-Luc Godillard roulait au pas, évitant les bouches d'égout, les défauts du revêtement. Soudain, le caméraman attira son attention. « Psst, vise un peu là-bas, dans le hall du petit bâtiment. On dirait qu'il y a du monde. On va voir. » Le conducteur ne répondit pas. Il se contenta de garer la Renault près d'un socle orphelin de sa statue. Les tags qui avaient envahi le cube gris faisaient paradoxalement ressortir les lettres du nom gravées dans la pierre. Vladimir Mayakovsky. Ils dépassèrent le local poubelle, contournèrent des boîtes aux lettres pour tomber sur un groupe de 5 black blanc beurre qui tiraient à tour de rôle sur la Marlboro communautaire. Jean-Luc pénétra dans le hall tandis qu'Yvan demeurait en retrait, le regard vissé sur la voiture dans laquelle il avait laissé sa caméra. « Salut, on est de la télé !» Ils poussèrent une sorte de grognement collectif. Jean-Luc sortit son paquet de clopes et offrit une tournée de Winston. « Vous avez assisté à la course de bagnole tout à l'heure ?» Michael, un jeune Antillais au crâne allongé par une casquette bombée des Redskins, le toisa en rejetant un nuage de fumée. « Qu'est-ce que ça peut te foutre ?»« Beaucoup de choses. On a des images de la cité, de l'inauguration, des carcasses fumantes. Si on peut se faire un peu de son, en plus, pour que les gens comprennent bien, on boucle notre sujet et on peut retourner au pieu. » Celui qui semblait diriger le groupe, Fred, un grand type blond et flanqué, les épaules à l'étroit dans un blouson élimé, s'avança. « Tu veux qu'on fasse les ânes pour avoir du son ?»« D'accord, mais d'abord, dis-nous ce que tu en penses, toi, de ces courses de BM. »« Je sais pas trop. Ça ne me dérange pas, à part pour les gamins qui se précipitent au premier rang. C'est dangereux. » Godillard fut pris à partie par Caleb, un kabyle de visage fin et nerveux. « Espèce d'enfoiré, c'est ta chaîne qui organise le Paris-Dakar et tu oses nous faire la morale? Si tu as des remarques, va les faire aux types qui traversent les villages africains à 200 à l'heure. Ici, on n'a jamais blessé personne. » Le regard de Fred, le grand échalas, se posa sur le badge numéro vert que Jean-Luc Godillard avait oublié d'enlever. « Tu veux qu'on te parle du rodéo de tout à l'heure? C'est du réchauffé. Je crois que je viens d'avoir une meilleure idée. » Yvan Chobral avait fini par entrer dans le hall. « Laquelle, si c'est pas indiscret ?» Le porte-parole du groupe posa son index sur la rondelle métallisée agrafée au revers de la veste de Jean-Luc. « Si vous avez de la thune, on peut vous organiser une petite séance supplémentaire. » Le journaliste posa une question qui sonnait comme une réponse. « Quand ?» Le blond au blouson étriqué se fendit d'un sourire. « Un quart d'heure. Le temps de trouver une caisse. Comme on est 5, ça fera 5 000 balles. » Jean-Luc, soucieux des budgets de TV5, essaya sans succès de réduire la note à 3 000. Les deux reporters finissent par racler leur fond de poche pour faire l'appoint et insistèrent pour qu'on s'en tienne au rodéo. Et que contrairement à ce qui s'était déroulé plus tôt, les voitures ne seraient pas brûlées. Michael, qui avait filé au début de la négociation, réapparut au volant d'une Golf GTI rouge, suivie de Caleb dans une Renault 5 Turbo. Ils s'enveloppèrent la tête dans un foulard, ne laissant qu'une fente pour les yeux. « Quand vous voulez. » Yvan Chobral avait escaladé le socle vide. Pendant 5 minutes, il filma depuis son perchoir les évolutions des deux bolides à travers les rues de la cité. À 3 heures, les deux reporters euphoriques rentrèrent sur Paris. « Jusqu'à ce que tu sois sourd. » Vendredi, 11h45. Les gargouillis de la cafetière électrique réveillèrent Jean-Luc Godillard. Le montage de l'émission s'était prolongé jusqu'à 5h du matin et il avait besoin d'un bon litre d'arabica pour remettre la machine en route. Il se fit griller quelques tartines, les beurra et se sentit assez rassuré pour s'ouvrir au monde. Son pouce fit pression sur la télécommande de la radio. Le flash venait de se terminer et il dut subir 5 minutes de sujet People de France Info, expo à ne pas louper, maladie à ne pas attraper, carnet du snob de service, avant d'entendre le jingle du journal. Le Vatican venait de reconnaître l'Ossétie du Sud et la République des Tchétchènes, ce qui entraînait une vigoureuse protestation commune des organisations indépendantistes d'Irlande du Nord, de Corse et du Pays Basque. Un avocat, s'appuyant sur la législation qui protégeait le consommateur de la publicité mensongère, intentait une action en justice contre le président de la République pour non-tenue de promesses électorales. L'annonce du dernier papier le sortit d'un coup de sa torpeur. Malaise dans les banlieues, un mort cette nuit à Épinay-la-Jolie. La fête organisée par la municipalité pour marquer la fin des travaux de réhabilitation de la cité des poètes d'Épinay-Jolie s'est terminée tragiquement ce matin aux alentours de 3h30. Après un premier rodéo au cours duquel 2 voitures volées avaient été incendiées, les policiers, alertés par les habitants, ont dressé un barrage à l'entrée du chantier de la Francilienne qui sert régulièrement de piste de vitesse aux jeunes de la région. Une Golf GTI a, selon les premières informations, foncé sur les policiers qui ont ouvert le feu. Le conducteur, un mineur, prénommé Michael, a été tué sur le coup. Jean-Luc s'habilla sans prendre le temps de se laver, appela un taxi pour ne pas perdre une seule minute à la recherche d'une place de stationnement et s'engouffra dans l'immeuble de TV5, oubliant même de réclamer la monnaie sur son billet de 100. Il récupéra la cassette du reportage tourné la nuit précédente malgré les récriminations du secrétaire de rédaction, qui avait peur de bousculer le journal de la mi-journée. La salle de montage était libre. Il enclencha le boîtier dans un magnétoscope et fit défiler les images en accéléré. Il inversa les séquences afin de mettre les carcasses fumantes après le rodéo. Il ajusta ensuite le commentaire, laissant entendre que l'épave représentait la Golf GTI dans laquelle avait péri le jeune Michael. Le sujet, titré « La mort, cité des poètes », eut un retentissement considérable. Il fut acheté par une dizaine de télés étrangères et collectionna une impressionnante liste de distinctions dans les festivals du réel. Un samedi, 3 mois plus tard, Guy Lux traversa la scène du Théâtre de l'Empire pour accueillir Paul Amar qui joguait sur l'allée centrale. Jacques Lang s'assura que personne ne le regardait pour s'autoriser à bâiller. Il se fit la réflexion qu'il bâillait de plus en plus fréquemment lors de la cérémonie de remise des 7 d'or. et qu'à chaque fois que les maxillaires le démangeaient, personne ne posait le moindre regard sur lui. Un doute l'effleura. Et s'il en était toujours de même? Il chassa cette pensée déprimante pour fixer son attention sur le déhanchement du présentateur de Soir 3 qui suivit Guy Lux jusqu'à un pupitre que seuls les décorateurs de la SFP pouvaient concevoir. C'était la plus harmonieuse synthèse possible entre le sas du vaisseau de Star Trek et un godemiché géant. Paul Amarre prit place derrière le panneau décoré des deux sets d'or entrecroisés. Guy Lux crachota dans son micro pour en vérifier le bon fonctionnement. Il lut son papier dans la plus parfaite indifférence. Les journalistes nominés pour le set d'or du meilleur reportage d'investigation sont Jean-Marie Cavada pour « Dans les coulisses de la 3 ». Bernard Benyamin pour Les oiseaux de la mer d'Aral et Jean-Luc Godillard pour La mort, cité des poètes. Paul Amarre déchira l'enveloppe en rougissant. Le vainqueur est Jean-Luc Godillard pour La mort, cité des poètes. Les invités applaudirent poliment tandis que les images du rodéo étaient projetées sur le mur écran. Le journaliste de TV5 grimpa à son tour sur le podium pour recevoir sa sculpture scintillante. Il remercia une douzaine de personnes, sans lesquelles je ne serais pas devenu ce que je suis, et retourna écouter les battements de son cœur, lové dans son fauteuil coquille. Samedi, 23h30. Jean-Luc Godillard ne s'était pas éternisé devant les tables dressées dans les coulisses. Il avait fourré son set d'or dans un sac en plastique et salué les incontournables sans lesquels il ne resterait pas longtemps ce qu'il était devenu. Il descendait l'avenue de Wagram à pied en direction de la place des Ternes quand il eut conscience d'une présence dans son dos. Il ralentit l'allure, prêt à se retourner. Mais les deux types étaient déjà portés à sa hauteur. Il sentait qu'on lui appliquait la pointe d'un couteau sur le flanc. « Fais pas le con. Marche comme si de rien n'était. Ta bagnole est garée où ?» Il donna un coup de menton en direction d'une XM grise. « C'est la Citroën. » Haleb prit les clés dans la poche du journaliste qui l'obligea à monter à l'arrière. Fred, le blond, interminable, s'installa au volant après avoir récupéré les papiers. À l'euphorie anesthésiante de la remise des sept succédait la peur la plus viscérale, la plus primaire. Godillard se mit à trembler. « Michael, j'y suis pour rien. On était partis depuis longtemps quand il a foncé sur les flics. » Caleb le titilla de la pointe du grand arrêt. « Ta gueule, on t'a déjà assez entendu comme ça à la télé. » Le journaliste réprima ses sanglots qui l'oppressaient. La voiture quitta le périphérique, bifurqua sur A86 et le voyage se poursuivit dans un silence total. Ils franchirent les limites d'Épinay-la-Jolie un peu avant 1h du matin. Le dimanche. Fred arrêta la XM devant l'entrée du cimetière Paul Valéry, ex-cimetière Pierre Gamara. Au loin, les contours lumineux des statues projetées au fond des immeubles de la Cité des Poètes se découpaient sur le ciel noir. Haleb arracha le sac plastique des mains de Jean-Luc Godillard. Fred ouvrit la serrure de la grille du cimetière à l'aide d'un passe. Ils durent traîner le journaliste qui hurlait, refusant d'avancer. La cloche de l'église sonna quand ils arrivèrent devant la sépulture de Michael. Halem plongea la main dans le sac et brandit le sept d'or devant les yeux de Godillard. « Prends-le et pose-le sur sa tombe. C'est à lui et à personne d'autre. »
samba pra você. Não fala muito bem, não chega a dizer que sinto pra você. Mas é meu samba pra você, mesmo com língua sem, vou chegar a fazer um samba pra você.
Et pour vous détendre un peu, toujours dans le volume Zapping de Didier Deninx, 5 sur 5. La 605 noire vint se garer au pied de l'imposant immeuble miroir, et le chauffeur fut presque immédiatement debout sur le trottoir, la casquette à la main, afin d'ouvrir la porte à Celia Upton, l'épouse du secrétaire d'État aux Finances. La carrosserie surélevée permit à la jeune femme de quitter l'habitacle sans que l'attention de son serviteur ne puisse monter plus haut que les genoux. Elle tira légèrement sur la veste de son ensemble bleu turquoise et d'un geste harmonieux ramena du bout des doigts ses longs cheveux noirs sur ses épaules. Elle leva les yeux vers le ciel pour suivre un vol de moineaux. « Revenez me prendre d'ici 2 heures, Philippe, et n'oubliez surtout pas de passer prendre le gâteau d'anniversaire de ma fille chez Daloyau. » Ses talons martelèrent les dalles de l'escalier de marbre, et bien qu'elle ait appris à marcher en dominant chacun des mouvements de son corps, à en apprivoiser les ondulations naturelles, la pureté de ses formes attirait tous les regards. Les portes automatiques délivrèrent leur minuscule chuintement pneumatique, puis coulissèrent en silence. L'adjoint du directeur général, qui l'attendait devant le bureau d'accueil, vint à sa rencontre, le visage rayonnant. « Je suis heureux de vous rencontrer sans écran interposé, Madame Upton. Monsieur Garabi vous attend dans son bureau. » « Vous n'avez pas rencontré trop de difficultés à venir jusqu'à Boulogne-sur-Seine ?» Il n'attendait pas de réponse à sa question. Il traversa le hall, la jeune femme à son côté, et s'immobilisa devant un ascenseur qu'il appela au moyen d'une minuscule télécommande. La paroi latérale gauche de la cabine, constituée d'une vitre fumée, permettait d'admirer, pendant les 45 secondes que durait l'ascension, les toits de la capitale, inondés de soleil et le scintillement du fleuve. Avant d'arriver au sommet du bâtiment, Celia Upton vérifia sa coiffure dans le miroir. Elle cligna discrètement des yeux pour bien humecter les lentilles teintées en turquoise transparent, qui ajoutaient une pointe de mystère au charme incroyable émanant de son visage. La porte de l'ascenseur ouvrait directement dans le bureau du président. La pièce occupait, en fait, toute la surface de l'étage, couverte pour une moitié, aménagée en terrasse paysagée pour l'autre. Un mur-image diffusait en simultané Une cinquantaine de programmes captés par la parabole blanche camouflée au milieu des arbres et dont la corolle avalait le ciel. Hubert Garabi, énarque policé et court sur pattes, dirigeait l'antenne de Télépremière depuis 3 ans. Ses succès inespérés dans le traitement de la surproduction d'acier et l'ajustement des effectifs à la réalité du marché en avaient fait un homme de recours. Et c'est presque naturellement que Canigro, repreneur de la chaîne et leader mondial de l'alimentation pour chiens et chats, l'avait choisi pour réorganiser une entreprise en décadence. Il s'était rapidement adapté à cette nouvelle industrie et le passage des hauts fourneaux au décor en trompe-l'œil, des coulées d'acier aux images virtuelles, s'était effectué en douceur. La mise en œuvre de sa philosophie audiovisuelle, que l'on résumait d'une formule, la soupe pour le plus grand nombre, les petits fours pour ceux qui restent. Cette philosophie s'était traduite par une progression fulgurante de l'audience. Les baromètres hebdomadaires de Médiométrie plaçaient systématiquement Télépremière en tête des chaînes pour chaque tranche horaire. Le président contourna le long bureau ovale, plus vide qu'un billard, et s'inclina devant Célia Upton en lui prenant délicatement la main. Il l'invita à prendre place dans une courbe de la pièce aménagée en salon. Une femme silencieuse déposa un plateau, café, thé, biscuits, sur une table basse et disparut aussi mystérieusement qu'elle était venue. Célia prit place sur le canapé de cuir, tandis que chacun des 2 hommes s'asseyait dans un fauteuil. Elle croisa les jambes. L'imperceptible feulement de la soie produisit plus d'effet sur les narques qu'une manifestation de sidérurgiste en colère. Il respira profondément, en se tortillant les mains, et sourit bêtement à la cantonade. L'adjoint se rua sur les tasses et fit le service, donnant le temps à son supérieur de reprendre ses esprits. Tout d'abord, Madame Upton, je dois vous dire que j'ai étudié de près les courbes de décrochage sur le créneau qui nous intéresse, et qu'il se confirme que le point faible de notre programmation de dimanche se situe très exactement entre 18h45 et 19h30. Célia Upton se pencha pour saisir l'anse de sa tasse. Le module de mon démission est de 50 minutes, monsieur le président, et cela ne fait que 3 quarts d'heure. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je vous expose le contexte. Juste avant, en raison d'accord avec un network californien, nous diffusons un feuilleton américain de faible prestige. Il faillait dire une merguez, comme il qualifiait ce genre de série lors des réunions du mercredi. En face, Canal Jeu draine plusieurs millions de téléspectateurs avec le tirage en direct à 19h de la 3e tranche du loto. Nous avons négocié avec la Française des Paris le droit de faire défiler les numéros gagnants sur l'écran. Est-ce que cela vous pose un problème ? C'est une nécessité absolue, n'est-ce pas ? L'adjoint joua son rôle d'adjoint, qui était de prendre sur lui les aspects négatifs de la négociation. « Oui, nous sommes persuadés que votre présence et le concept radicalement novateur de votre émission nous permettront de mordre sur la concurrence. Mais le pouvoir d'attraction du loto est indéniable. » Célia aspira quelques gorgées de thé sans sucre. « Très bien. » Je verrai avec mon réalisateur la meilleure manière de concilier mon image avec le banc titre. Vous avez envisagé d'autres modifications, monsieur Garabi ? Le fait de passer, en si peu de temps, dans la bouche sensuelle de Célia Upton, de monsieur le président à monsieur Garabi, fit rougir jusqu'aux cheveux l'homme qui avait effacé l'Anguy de la carte de France. Il fut à deux doigts de lui demander d'user de son prénom, Hubert, mais la présence de son adjoint le retint. Non, pour l'essentiel, nous en resterons à ce que nous avions convenu ensemble et qui est consigné dans le projet de contrat. Et de votre côté, Celia Upton prit son filofax et fit tourner les pages sous son index filiforme, l'ongle rouge comme une goutte de sang suspendu. La réalisation du pilote apportera des améliorations au produit, mais cela restera un talk show autour d'un invité de large surface médiatique. Depardieu, Kouchner, Le Pen, Cousteau, Bruel. Le tout rythmé par 5 inserts de stock shot abordant les principaux événements de la semaine écoulée. La coupure publicitaire est toujours de 4 minutes. Oui, à moins que le Parlement n'accepte de modifier la loi. Ce n'est pas de mon ressort, malheureusement. Mais peut-être pourriez-vous en parler à votre mari. La publicité, il pensa, le gras, comme lors des réunions du mercredi. La publicité, c'est le nerf de la guerre. Elle consentit à sourire. Je me garde bien de parler télévision à la maison. En contrepartie, nous n'avons pas de discussion d'ordre politique. L'adjoint feuilleta les dernières pages du contrat. Comme vous avez pu le constater, nous avons tenu compte de vos remarques concernant les conditions financières de votre collaboration. Vous recevrez l'intégralité de la part producteur et nous vous versons, en su, un cachet mensuel de 200 000 francs correspondant à la préparation et à la présentation d'une émission hebdomadaire de 50 minutes. Vous avez des observations ? Pas sur ces articles, cela me convient. En revanche, j'aimerais qu'il soit précisé à l'avenant du contrat que j'ai le droit de choisir mon réalisateur et que Télé Première mette à ma disposition une maquilleuse, une habilleuse personnelle ainsi qu'un véhicule de prestige et son chauffeur. Le président nota les demandes sur son calepin électronique. « Il n'y a aucun problème, Madame Upton. Tout cela va de soi. Encore un peu de thé. » La jeune femme se leva et lissa sa jupe en plaquant ses mains sur son ventre, ses cuisses. Hubert Garaby ravala sa salive. « Je dois hélas vous quitter, Monsieur Garaby. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma fille et j'ai des obligations envers elle. » Elle ferma les yeux et rejeta la tête en arrière, découvrant une gorge d'une blancheur aveuglante. « Ça me fait penser que j'oubliais un petit détail. J'aimerais également que quelqu'un puisse s'occuper de Cécilia, l'amener à l'école, suivre ses devoirs. » Avec la vie que nous menons, il est impossible d'être aussi présent que des parents ordinaires. L'adjoint appela l'ascenseur à l'aide de sa télécommande. « Nous y veillerons, Madame Upton, soyez tranquille. » Le chauffeur du ministre attendait au soleil, près de la 605. Le gâteau de chez Daloyau était posé sur la banquette arrière, dans sa boîte isotherme. Puis, le tout, Peugeot, Charlotte au Truffon, conducteur, présentatrice vedette, bas de soie et lentilles teintées, le tout prit le chemin du Vésinet. L'émission baptisée 5 sur 5 débuta le mois suivant. Le visage de Celia Upton, plus séduisante que jamais, apparut plein cadre. Un mouvement de caméra permit aux téléspectateurs de découvrir sa robe, une création exclusive Kajitomo, dont le camailleux de bleu s'harmonisait parfaitement avec le décor. Celia cligna des yeux quand les projecteurs donnèrent leur pleine puissance, et l'on put remarquer la légère touche de violet qui teintait son regard, sans que l'on se rende compte que cette étrangeté était due à ses lentilles de contact. Elle posa sur la table laquée le stylo Mont-Blanc qu'elle serrait entre ses doigts et fixa la lampe rouge clignotante qui indiquait la prise de vue choisie par le réalisateur. Elle passa furtivement le bout de sa langue sur ses lèvres. « Bonsoir. Pour cette première émission de 5 sur 5, je suis heureuse de recevoir le défenseur des pauvres et des exclus, l'espoir des marginaux. Je vous demande d'applaudir l'abbé X. » J'espère que vous aurez aimé cette écriture et ces thèmes de Didier Deninx, et que vous aurez envie de découvrir les autres œuvres de cet écrivain pas banal. Merci de votre écoute. À bientôt. Prenez soin de vous.